day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Sébastien. Ça fait plaisir de se retrouver ici dans une émission enregistrée dans les conditions du direct. Et voilà.
Et on va se faire plaisir comme d'habitude.
On va parler de séries.
De séries télé, ouais, de bandes dessinées.
Tout à fait.
Est-ce qu'on va écouter de la bonne musique?
Et je pense qu'on va écouter de la bonne musique. On va essayer de passer un excellent temps ensemble, chers auditeurs.
On en a besoin.
Voilà.
Alors on va démarrer l'émission avec un petit morceau de musique. On va écouter Three Color Red, un groupe des années 90. Et c'est tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Three Colors Red dans Bande Geek Mafia avec 60 Miles Smile.
Creature Shock Radio FM. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent comment ce serait de vivre ailleurs, très loin de Hell's Kitchen. Je me suis rendu compte que cette ville faisait partie de moi, qu'elle coulait dans mes veines, et que je ferai tout pour y rendre la vie plus douce.
Le bien et le mal. Parfois, la délimitation est extrêmement claire. Parfois, elle est plus floue. Parfois, on fait des choses hors des limites de la loi.
On va faire la différence. Je sais que ça donne pas cette impression, mais on va y arriver.
Je sais que vous êtes aveugle, mais enfin, vous voyez tellement de choses.
J'entends des choses.
Tu sais comment ça s'appelle, ça? Un ton. Ce que je veux, c'est te former, que tu t'en serves.
Yo les bandes geeks. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série TV Netflix Daredevil. Une série qui a été produite en 2015-2018, création de Drew Goddard. Une série de super-héros de l'univers Marvel, un de mes héros préférés de l'enfance. C'est une série en 3 saisons, plus une mini-série de Defenders, diffusée en 2017, qui s'intercale entre la saison 2 et 3, et qui réunit Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. gros coup de cœur pour Jessica Jones, dont je vous parlerai une autre fois. Une série, sur la justice et la vengeance. Peut-on être juste sans céder à la vengeance ? La justice est aveugle, répété en fait dans la série Daredevil. Le jour, Matthew Murdock est avocat pénaliste. Il défend les plus démunis de son quartier de New York, Hell's Kitchen. Il est certes aveugle, mais indépendant. Il est brillant dans ses plaidoiries qu'il écrit en braille. Il est associé à Foggy Nelson, son meilleur ami, depuis l'université. Il est catholique, croyant, mais non pratiquant. Il est aussi le fils d'un boxeur, et lui-même boxeur. Mais ce n'est pas le seul art martial qu'il maîtrise. En fait, son vieux maître Stick lui a enseigné diverses techniques de combat, différents kung-fu, le muay thai, le ninjutsu, la capoeira, et sans doute d'autres encore. Car en effet, si le jour il est avocat, la nuit il devient Daredevil. Qui veut littéralement dire « oser le diable » ou « casse-cou ». Il est connu sous le nom aussi du démon de Hell's Kitchen. Un justicier qui harcèle et pourchasse les malfrats et les mafieux, tous ceux qui ont échappé à la loi du jour, et qui essaient de dissimuler leurs crimes à la faveur de la nuit, tous ceux qui pensent pouvoir cacher leur noirceur dans l'obscurité. Comment fait-il s'il est aveugle, me diriez-vous ? Ses autres sens sont naturellement, surnaturellement développés. Le toucher et l'odorat, bien sûr, mais surtout l'ouïe. Tel une radio, il capte et entend les voix de très loin. Il perçoit nettement les battements de cœur des gens et sait très bien les interpréter. Les sons qui se répercutent sur les choses et les gens résonnent, circulent dans l'espace et se répercutent en dessinant les contours des choses. Il perçoit donc des formes sonores, des images acoustiques qui situent chaque chose et chaque être, chaque mouvement dans l'espace. Ainsi, n'est-il aveugle qu'en apparence, car il perçoit le son. Il voit le son comme nous voyons des images. Il faudrait un silence total pour le rendre totalement sourd et donc aveugle. Évidemment, Daredevil est une série qui montre combien un handicap n'est pas une faiblesse mais une fragilité. Une fragilité, une fêlure existentielle que nous pouvons tous avoir plus ou moins et qui n'empêche pas la puissance et l'héroïsme. En ce sens, la série a quelque chose de plus réaliste que d'autres comics Marvel comme les Avengers. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage ou Jessica Jones ont tous une faille existentielle et psychologique. Ils sont tous tourmentés par leur passé. Dans leur présent fragile, ils ont du mal à assumer leur statut de super-héros. Un peu comme les X-Men, des mutants qui sont des parias aux yeux de la société. La justice est aveugle donc, mais lui, Daredevil, est clairvoyant. Il sait que son combat contre le crime, l'appât du gain, la mesquinerie est sans fin. Il sait aussi qu'il a choisi la justice, jamais la vengeance. Malgré ses tentations, car seule la justice peut mettre fin à l'escalade de la violence. Pas la vengeance, qui est une passion infinie, qui reproduit la violence sans cesse, comme enfermée dans un cercle. Il a choisi de toujours neutraliser, arrêter, voire blesser ses ennemis, jamais de tuer. Le personnage est sombre, comme son costume rouge sang, comme la nuit qui l'enveloppe. Il est hanté par la culpabilité, bien catholique, d'avoir parfois failli à son devoir, tiraillé par la culpabilité de ne savoir comment protéger ceux qu'il aime. Foggy, son meilleur ami, Karen Page, qui lui plaît beaucoup. Autrement qu'en leur cachant sa double identité. Il a choisi la justice, même dans l'ombre, quand d'autres qu'il combat ont choisi la vengeance. Le Caïd, Kingpin en anglais, Punisher, le terrible gang de la main, Bullseye, et même Elektra, son grand amour. Mais au fond, ce ne sont pas tous ces méchants maîtres du crime sous toutes ces formes que combat Daredevil. Ce qu'il combat vraiment, c'est la peur. C'est ce qu'a très bien compris Karen Page, qui est son véritable alter ego. Si Daredevil représente l'homme sans peur, elle est sans aucun doute la femme sans peur. Il combat la peur qui ronge les cœurs, paralyse l'action, nous fait fuir nos responsabilités, nous empêche de devenir ce que nous sommes, la meilleure part de nous-mêmes. La peur qui nous replie sur nous-mêmes, au lieu de nous ouvrir aux autres et à leurs différences. La peur qui nous rabougrit, au lieu de nous élever. La peur qui nous fait céder à des compromis inacceptables, quand nous devrions dire non avec courage et honneur. D'Ardeville combat la peur qui nous empêche d'être libres. Merci de votre écoute.
Merci Pablo pour cette chronique. Alors, tu me demandais si je connaissais D'Ardeville.
Oui.
Alors moi, je connaissais bien sûr les comics. Parce que quand j'étais gamin, j'achetais, je ne sais pas si tu te souviens de ces magazines, ouais, Titan, Strange.
Strange, ouais, bien voilà. Sûr.
Et dans ces magazines, dans ces comics, en fait, il y avait bien sûr D'Ardeville. On ne disait pas Daredevil à l'époque,
ouais,
on ne savait
c'est
pas.
C'est clair.
D'Ardeville, un personnage que je trouvais vraiment passionnant,
ouais,
parce qu'il avait développé, comme tu l'as dit, tous ses sens.
Mmh, mmh.
Et puis surtout, j'aimais beaucoup à la fois ses amis et ses antagonistes.
Ouais,
Iron Fist, par exemple, ouais, je le trouvais génial, ce
ouais,
personnage.
Mmh, mmh, mmh.
Et Bull-Eye, c'est celui qui a la cible.
Ah, ouais, ouais,
c'est,
ouais.
C'est un méchant, mais
il est terrible.
Ouais,
ah,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. Et le personnage du Caïd est aussi particulièrement bien
le
travaillé.
Le Caïd, il est plutôt marrant.
Ouais, ouais. Et dans la série, il est vraiment bon. C'est vraiment un acteur.
C'est un bon Caïd.
C'est un très bon Caïd. Ouais, ouais.
Alors moi, Pablo, chers auditeurs, chères auditrices, je voulais vous parler d'une autre série, mais qui n'a strictement rien à voir avec les comics, même si on est quand même dans la science-fiction, hein, parce que c'est la série OVNI.
Très
OVNI, une série Canal+. Qui a été diffusée au tout début de l'année, là, 2021. Et c'est une série de, je veux dire, fantastique, science-fiction, mais c'est surtout une comédie, avec Melville Poupeau, Michel Villarmoz et Géraldine Pellas. Alors, de quoi ça parle? On est en 1978. Je ne sais pas si tu te souviens, Pablo, 1978.
Vaguement.
Vaguement, moi aussi. Et le personnage principal, joué par Melville Poupeau, s'appelle Didier Mature. Et Didier Mature, c'est un brillant ingénieur. Spatial, voilà. Sauf qu'il voit son rêve partir en fumée lorsque la fusée explose au décollage. Donc on est avant la fusée Ariane. Hein.
D'accord.
Alors il pense avoir touché le fond, hein, Didier Mature. Pourquoi ? Parce qu'il est muté. Il est muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis, géré par une équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur une autre planète.
D'accord.
C'est une équipe de bras cassés.
De joyeux farfelus.
Ah ouais, exactement, de joyeux farfelus. Et donc sa mission, c'est trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique à l'époque.
Excellent.
Voilà. Donc c'est un véritable enfer pour ce cartésien invétéré qui n'a qu'une seule idée en tête, se tirer au plus vite de là. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes et lui ouvrir les portes d'un monde où plus rien n'est impossible. Donc pour l'instant, il y a une saison. Et moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment une petite bouffée d'air frais en ce début d'année, parce qu'on en a besoin en ce moment.
Ouais, clairement.
Les acteurs sont excellents. Melville Poupeau, ouais. Michel Villarmoz et Géraldine Pellas sont super. En plus, la petite bande là, de farfelus autour de lui, c'est des jeunes acteurs, ils sont vraiment excellents.
D'accord.
Et puis, on se rend compte que, parce que c'est très, enfin, la reconstitution des années 70 est très réussie.
D'accord.
Et,
ça, c'est bien aussi.
Pas seulement dans les décors et les costumes, mais aussi dans la mentalité. C'est-à-dire que c'était une période d'une très grande créativité, en fait.
Ouais, complètement. Ouais.
Et on le ressent vraiment en regardant cette série. Et puis il y a un truc assez marrant pour les fans de X-Files, c'est que Didier Mature, c'est un peu Scully qui devient Mulder, en fait.
D'accord, c'est ça.
C'est un peu ça qui est drôle.
D'accord.
Ouais, parce que
le cartésien qui devient
fasciné par le paranormal.
Ouais, c'est ça, le paranormal. Ouais.
Donc c'est une série française, et puis une série française bien écrite, qui n'est pas forcément très fréquente.
Ouais.
Donc petit coup de chapeau, hein, pour les auteurs de ce petit bijou d'humour et de suspense, hein, assez léger et poétique aussi, hein, d'ailleurs.
Super.
La reconstitution, je le disais, elle est savoureuse, l'intrigue est marrante, et tous les acteurs sont excellents. Donc voilà, on avait besoin de ça, je pense que tout le monde a besoin de ça en ce moment. C'est rétro, c'est coloré, c'est décalé.
C'est génial.
Voilà, c'est assez sympa.
Ouais.
Ça s'appelle OVNI, alors avec un S entre parenthèses. Voilà, parce que c'est à la fois un ovni, puis ça parle des ovnis.
Mmh, tout à fait.
Et c'est à découvrir, donc c'est une série Canal. Mmh. Vous la trouverez facilement sur Internet ou via MyCanal pour ceux qui l'ont, ou en DVD pour les plus anciens d'entre vous,
bien
pour
sûr.
Ceux qui sont nés dans les années 70.
Voilà.
Voilà pour cette série OVNI. Pablo, je sais que tu as une autre série ce soir.
Alors,
une
oui.
série passionnante, mais plus sombre, parce
beaucoup
qu'elle s'appelle
Dark.
Et voilà, c'est pour ça.
Dark.
Dark.
Alors, c'est une série en fait, c'est une série Netflix Dark 2017.
Est-ce que je mets la bande-annonce
juste après, attends un petit peu.
D'accord.
C'est une création en fait de Baran Bo Odar et Diane. Alors, je vais essayer de le prononcer, Diane Dieu Frise. Trois saisons. Alors, c'est une série allemande, une fois n'est pas coutume, que je vais vous proposer donc. Avec une interprétation un peu philo, évidemment. La question que je me pose, c'est change-t-on avec le temps ? Bande-annonce.
Waouh.
Aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin.
Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. L'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant.
Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Tout est exactement comme il y a 33 ans. Tout se répète.
Courez vite !
Cette ville est gangrénée. Et aucun de nous n'est épargné. Il y a un assassin parmi nous.
Le passé influence évidemment le futur. Mais le futur influence le passé, lui aussi. Tic, tac, tic, tac.
Alors, synopsis. En 2019, le policier Ulrich Nielsen cherche désespérément son fils disparu, Michael, âgé de 12 ans. 33 ans plus tôt, en 1986, donc, pareil, retour un petit peu dans les années 80, avec l'esthétique années 80 à souhait, allemande en plus, donc... assez kitschouille. C'est son frère cadet, Mats, qui avait disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Dans la ville de Winden, ce sont quatre familles traumatisées par cette disparition qui tentent de résoudre les mystères qui entourent la ville et sa région. Jonas Kamwald est lui aussi marqué par cette affaire, mais également par le suicide tragique de son père. Il va tenter d'en savoir plus. Les enquêtes des policiers et certains habitants vont mettre en lumière une histoire qui recommence tous les 33 ans, des événements qui se déroulent en 1953, 1986 et 2019 sont étroitement liés. Les recherches effectuées pour trouver le coupable de ces disparitions vont peu à peu révéler les secrets de la petite ville paisible. Autant le dire tout de suite, cette série va vous prendre sérieusement la tête. Ça, c'est clair. Le premier épisode de la saison 1 s'ouvre sur une citation d'Albert Einstein. « La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. » Alors, change-t-on avec le temps ? À première vue, oui. Cela semble évident. Nous changeons, nous évoluons constamment, du moment où un œuf s'est formé dans la matrice de notre mère jusqu'au jour de notre mort. Nous nous modifions avec le temps qui passe, le temps nous modifie, il nous transforme, nous métamorphose parfois, en passant sur nous, en passant par nous, en passant à travers nous. Mais est-ce toujours vrai ? Le temps nous modifie-t-il en surface ? Modifie-t-il nos qualités et nos défauts, nos façons d'être, de façon plastique et modulable ? Ou nous transforme-t-il profondément ? Transforme-t-il notre être en profondeur, notre moi, et de façon irréversible ? Et qu'est-ce qui demeure en nous à travers le passage du temps ? Car quelque chose semble demeurer inchangé en nous. Alors quoi ? Notre identité ? Non, elle semble évoluer, avoir une histoire et être transformable. Elle s'écrit au fur et à mesure que nous évoluons et vivons. Notre mémoire alors ? Non, la mémoire est constamment en reconstitution d'elle-même. Nos souvenirs sont sans cesse remis à jour. Quel est ce « je » qui déclare « j'ai changé » ? Si mon « moi » s'est transformé profondément, qui est alors ce « je » qui le reconnaît et l'affirme ? À travers l'intrigue des disparitions inquiétantes et dramatiques, ce sont ces questions qu'explore la série Dark. La ville de Vinden abrite une centrale nucléaire protégée, et en grande partie par des secrets. Globalement, la ville de Vinden se protège derrière des secrets, à la façon de Twin Peaks. Et il semblerait qu'une faille temporelle ait été ouverte, un passage d'une époque à l'autre, mais également une perturbation dans le continuum spatio-temporel, qui fait que les événements se répètent comme dans un éternel retour. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgâcher. Certains personnages voyagent volontairement ou pas dans le temps, mais ne changent pas, ou du moins ne peuvent pas changer tant qu'ils n'ont pas acquis une profonde conscience des enjeux de leur histoire et qu'ils décident de jouer un rôle particulier, d'influer sur le cours des choses ou au contraire de laisser faire, au fond, cette prise de conscience et cette décision les concerne eux-mêmes. C'est eux qui doivent changer et non pas le cours des événements. Ou plutôt, c'est en se changeant eux-mêmes qu'ils pourront vraiment changer le cours des choses. Ainsi, ce n'est pas que le passé qui influe sur le présent ou le futur, comme dans Retour vers le futur, mais bien aussi le futur qui influe sur le présent et le passé. Une voix off nous dit souvent « Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas, ils sont connectés dans un cycle sans fin. Tout est connecté. » Attention, vertige temporel. Comme moi, vous risquez d'être parfois perdu dans le temps, dans les différentes époques, personnages et temporalités. En ce sens, la série joint le fond à la forme, puisqu'elle nous égare dans le temps, comme ses personnages et intrigues. Nous suivons quatre familles, les adultes comme les adolescents. Les adolescents sont les plus attachants. Un petit air Stranger Things avec l'esthétique des années 80. Pourquoi Dark ? Pourquoi le nom de la série Dark ? Il est question d'une matière noire ou matière sombre. La série effleure la physique quantique et la théorie des multivers ou des univers à dimensions multiples. Les épisodes évoluent vite vers le sombre. Les scènes nocturnes sont nombreuses. Les rares rayons de soleil laissent vite place à la pluie, à des trombes d'eau qui s'abattent sur Vinden et sa forêt. L'ambiance est assez hypnotique. Comme dans le générique, qui déploie des images en miroir kaléidoscopique. Les plans sont lents, souvent en très gros plan. La série renoue avec l'expressionnisme allemand. Vous serez certainement ému par un jeune couple d'amoureux central, Jonas et Martha, qui se disent « Nous sommes faits l'un pour l'autre, ne l'oublie jamais ». Au milieu de la nuit obscure, ces jeunes ont la couleur lumineuse du lilas. Merci de votre écoute.
Merci, Pablo.
Est-ce que tu l'as vu cette série ? Tu la connais ? C'est une série qui à la fois, je pense, assez adulte et en même temps pour les ados, qui marche.
Alors c'est, je sais que c'est Héloïse qui aime beaucoup cette série, mm-hmm. parce qu'elle en avait parlé une fois. Et moi j'ai vu Stranger Things, mais j'ai pas vu Dark. C'est vrai que j'ai l'impression que ça se ressemble un peu.
Ouais.
Alors bon, avec des, sans doute des intrigues différentes, mais c'est un peu la même atmosphère, les années 80. Bon. Du coup, je me suis pas lancé. En
fait. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute, là, Pablo ? Appara ? Goodbye, Dark.
Alors là, on écoute le générique de la série Dark.
Ah, tout à l'heure, c'était la bande-annonce, là, c'est le générique.
Là, c'est le générique.
D'accord. Mais on va s'écouter un petit morceau de musique.
Eh bien, oui.
Alors, qu'est-ce que tu as dans ton panier ?
Eh bien, on peut envoyer quelque
chose. Un petit Arch Enemy ?
Allez, un petit Arch Enemy pour nous réveiller tout ça un peu.
Arch Enemy dans Bande Geek Mafia sur Radio G101.5.
La radio qui fait le point, bien sûr.
Restez à l'écoute de Radio G. Voilà, c'était Arc Enemy avec The World Is Yours dans Monde Geek Mafia.
Voilà, le monde vous appartient.
Merci Pablo.
Merci à toi et merci à vous.
Ça fait du bien un petit peu de death metal mélodique.
Ouais. Ça réveille.
Ça réveille, exactement. Creature Shock Radio FM. Alors je vais vous parler de trois bandes dessinées ce soir. Trois bandes dessinées très différentes d'ailleurs. La première s'appelle La Bombe, la deuxième s'appelle Sapiens et la troisième Carbone et Silicium. Vous voyez un peu ?
Il y a une thématique là.
Il y a une thématique autour de la, j'allais dire des produits chimiques, mais pas du tout, de la nature. Et puis de la science en fait. Ouais. Voilà. Et Carbone et Silicium, vous allez comprendre, c'est encore autre chose. Alors La Bombe. La Bombe, honnêtement, je le conseille à tout le monde. C'est un petit chef-d'œuvre, ce truc, c'est génial.
D'accord.
En fait, c'est l'incroyable histoire vraie de l'arme la plus effrayante jamais créée, la bombe atomique. Le 6 août 45, donc, vous le savez tous, hein, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines, de milliers de personnes sont instantanément. Ça m'émeut tellement qu'il faut que je recommence ma phrase.
Ouais.
Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est émouvant.
Et le monde entier découvre horrifié l'existence de la bombe atomique, la première arme de destruction massive. Alors, dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ? Eh bien, c'est de ça que parle cette BD, La Bombe, une véritable saga de 450 pages, un roman graphique qui raconte les coulisses et les personnages clés de cet événement historique qui, en 2020, a commémoré son 75e anniversaire. Donc, des mines d'uranium du Katanga jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne, la Norvège, l'URSS et le Nouveau-Mexique, c'est une succession de faits incroyables, mais vrais, qui se sont ainsi déroulés. Tout ceux-ci sont racontés dans cette BD à hauteur d'homme, c'est-à-dire on voit les décideurs politiques, Roosevelt, Truman, les scientifiques qui sont passés à la postérité, Einstein, dont tu parlais tout à l'heure, Oppenheimer, Fermi, ou des acteurs majeurs, mais qui sont demeurés méconnus. Comme Léo Szilard, qui est en fait le personnage principal de l'album, c'est un scientifique qui remue ciel et terre pour que les USA développent la bombe, puis qui fit l'impossible pour qu'ils ne l'utilisent jamais.
Ah ouais, ouais. D'accord.
Ça, c'est vachement passionnant.
Ouais.
Il y a aussi Ed Cabe, c'est un ouvrier afro-américain auquel on injecta à son insu du plutonium pour en étudier les effets sur la santé.
Wow.
Et où l'histoire de Leslie Groves, le général qui dirigea d'une main de fer le projet Manhattan. Sans oublier, bien sûr, les habitants et la ville d'Hiroshima, reconstitués dans la bombe de manière authentique. Donc c'est extrêmement documenté, mais c'est avant tout passionnant. Mmh. Et c'est comparable en cela à la série télé Tchernobyl. Cet ouvrage s'impose déjà, je pense, comme le livre de référence sur l'histoire de la bombe atomique.
Voilà. Excellent.
Oui, vraiment excellent. Ouais. Je vous le conseille. Alors c'est un peu cher, 39 €, mais ça les vaut parce que ça fait quand même 450 pages et c'est génial. Quoi. Voilà. C'est publié chez Glénat.
Super BD historique. Hein.
Super BD historique. Mmh. Deuxième bande dessinée, c'est Sapiens. Alors Sapiens, c'est une BD qui est tirée d'un livre très célèbre qui a eu énormément de succès, de Yuval Noah Harari. Et là, c'est le tome 1, puisque le livre va être édité sous forme de bande dessinée, mais en plusieurs tomes.
D'accord.
Alors, dans le tome 1, bien sûr, hein, Sapiens, ça fait référence à cet animal insignifiant parmi les animaux, qui est l'être humain. En fait, Sapiens, c'est notre espèce, un Homo sapiens, qui a acquis, il y a 70 000 ans, des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en maître du monde.
Voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. Et donc, Harari, Van der Meulen et Cazenave, donc, qui eux ont adapté en BD, ils racontent avec humour la naissance de l'humanité, de l'apparition de l'Homo sapiens à la révolution agricole, dans ce premier tome. Hein. Dans le tome suivant, on parlera justement de l'arrivée de l'agriculture. Mais c'est une bande dessinée qui est passionnante parce qu'elle permet de repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de l'humanité. Par exemple, qu'il n'y a pas eu qu'une seule espèce humaine.
Hein,
auparavant, il y avait plusieurs espèces humaines. Bon, la plus connue étant Néandertal.
Bien sûr.
Et puis d'autres, il y en avait d'autres dans d'autres régions du monde.
L'homme de Java.
Exactement. Et donc là, Sapiens explique pourquoi c'est l'Homo sapiens qui n'est pas l'espèce la plus résistante, la plus forte, etc. Par exemple, Néandertal était beaucoup plus fort physiquement, etc.
Tout à fait.
Pourquoi c'est cette espèce qui finalement l'emporte sur les autres ? Bien, tout simplement parce que c'est l'espèce qui arrive à créer du lien social, qui fait une révolution cognitive. Hein, et donc dont le cerveau va se développer. Donc c'est passionnant, là aussi, une BD géniale. Alors je le conseille à n'importe quel âge, vous pouvez le lire de 7 à 77 ans. C'est une BD qui est sortie l'année dernière. Elle est un peu moins chère, hein, on peut la trouver à 22,90. C'est une édition cartonnée. C'est un,
d'accord. Oh. Ouais, c'est un bel objet.
C'est un bel objet. Mmh, et c'est publié par Albin Michel. Voilà, parfait. Sapiens.
Parfait, parfait.
Et enfin, la dernière, la troisième, celle que j'ai lue très récemment, parce que je l'ai fini pas plus tard que ce matin, c'est Carbone et Silicium. Alors, Carbone et Silicium, là, on est dans un autre univers. Hein. C'est un projet de science-fiction de Mathieu Babelais. Alors, Mathieu Babelais, il avait déjà eu un énorme succès avec Shangri-La, qui avait été en sélection officielle en 2017 hein, du Festival international de BD. Et donc, son nouveau projet SF, c'est sur le thème de l'intelligence artificielle. Voilà, excellent. Carbone et Silicium.
Très bien.
Donc, on est en 2046. Voilà. Et donc, les derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium, donc, sont des prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Voilà, ça démarre comme ça.
D'accord.
Sauf qu'ils sont élevés dans un cocon protecteur, ils sont avides de découvrir le monde extérieur, bien sûr, et c'est lors d'une tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Alors là, ils mènent alors chacun leur propre existence, chacun de leur côté, voilà, et ils luttent pendant plusieurs siècles, ah oui, c'est des robots, ils luttent pendant plusieurs siècles afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle, où les catastrophes climatiques, les bouleversements politiques et humains se succèdent.
D'accord.
Donc c'est à la fois...
Sanitaire également ?
Ah oui, oui, tu verras. C'est à la fois le parcours de ces deux androïdes, ouais. Et en même temps, une vision très pessimiste de l'avenir de la planète. Voilà.
Ouais.
Donc c'est passionnant là aussi.
D'accord. C'est une dystopie alors ?
C'est une dystopie complètement. Ouais. Mmh. Carbone et Silicium. Est-ce que tu veux écouter la bande-annonce ?
Ah oui, volontiers.
Parce que maintenant, pour les BD, ils font des bandes-annonces.
Excellent.
Quand même sympa. Bande-annonce musicale à retrouver sur YouTube, bien sûr. Carbone et Silicium. Alors, je vous le conseille. Et je vous conseille d'ailleurs toutes les bandes dessinées publiées par Ankama. Ankama, c'est vraiment un éditeur génial qui a publié Mutafukaz, pour ceux qui connaissent, ou d'autres. Voilà. Donc, je vous conseille ces trois bandes dessinées. BD historique, La Bombe, hein, vraiment génial. Il faut lire ça si vous avez envie de connaître l'histoire de la bombe atomique. BD sur l'histoire de l'humanité, c'est pas historique, mais c'est plutôt scientifique, hein, ouais, c'est Sapiens, ouais. C'est Sapiens. Mmh, mmh, mmh. Et puis l'ASF, la science-fiction, la dystopie, Carbone et Silicium chez Ankama, voilà,
ouais.
Pour moi ce soir.
C'est parfait, et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur Sapiens,
oui.
C'est intéressant quand même de revenir sur notre histoire, parce qu'on a souvent beaucoup, beaucoup de préjugés sur notre façon de vivre. Au temps du paléolithique, quoi.
Mm-hmm.
Et voilà, il y a vraiment plein de choses à découvrir là, c'est génial.
Ah, mais il y a plein de choses parce que
à comprendre et à repenser.
Alors déjà, on se rend compte que l'espèce humaine actuelle, Sapiens, est très récente en fait.
Tout à fait.
Alors qu'il y avait des humanoïdes, enfin des humains plutôt, même des espèces humaines avant nous,
bien sûr.
Qui bien plus anciennes que nous, qui bien ont sûr. Disparu. Mmh. Et puis des espèces qui étaient plus fortes physiquement, qui avaient des cerveaux plus développés. Hein. En fait, on croit toujours que finalement Sapiens c'est celui qui est le plus intelligent. Ouais. En fait, c'était pas le cas. C'est celui qui a été le plus malin, si j'ose dire, en fait, qui parce qu'il a réussi à créer des communautés, des groupes humains, plus viables finalement, à échanger des informations, et c'est ce que l'auteur appelle la révolution cognitive, qui permet à Sapiens de s'imposer, mais aussi d'imposer son pouvoir sur les animaux, sur les plantes et sur la planète. Hein. Ouais. Il y a aussi,
bien sûr,
et de maîtriser la nature, par exemple, grâce au feu.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est passionnant. Voilà. Donc là, trois BD géniales dans trois styles différents.
Bon, génial.
Mais il faut lire ça. Hein. Surtout qu'en ce moment, on a le temps de lire. Donc.
Voilà, on va avoir un peu de temps devant nous.
Bon. Voilà, la bande dessinée, bah, finalement, ça se lit bien.
Ouais, très bien.
Et puis, elles sont de qualité de plus en plus, d'ailleurs.
Ouais, clairement.
On le sait.
Clairement.
On écoute les Clash. Pablo, tu nous proposes Guns of Brixton.
Oui, allez.
J'adore ce morceau, surtout la basse. Bande Geek Mafia sur Radio G.
La radio qui fait le point, bien sûr. Hey, kick out.
voilà, c'est The Clash avec Guns of Brixton dans Mon Geek Mafia sur Radio G.
Ouais.
Merci Pablo pour ce choix.
Et merci à toi, c'était cool.
Creature Shock Radio FM. Alors là, accrochez-vous. On n'en parle jamais. Mais on avait regardé pendant le premier confinement, alors je vois pas pourquoi on ne regarderait pas une deuxième fois. C'est Top Chef, Pablo.
Ah oui.
Parce que pendant le Covid, Top Chef.
Et je connais des fans.
Ben oui, voilà. Alors, est-ce que c'est la frustration des bistrots fermés? Mais au printemps dernier, à l'heure où les Français, donc confinés, redécouvraient la cuisine entre plaisir et nécessité, Top Chef enregistrait des audiences records. Un an plus tard, donc maintenant, la pandémie est toujours là, et voilà. Et son retour à l'antenne, hein, cette émission, la battle des fourneaux, hein, voilà, a dû composer avec la réalité amère d'un monde de la restauration à l'arrêt, autant qu'avec les contraintes sanitaires. Donc de quoi donner à cette 12e saison une tonalité singulière quand toute la profession voit son avenir en suspens. Donc ils ont réussi à sortir l'émission dans ce contexte, c'est un peu un exploit, hein, c'est sûr. C'est sur M6, hein, vous vous souvenez plutôt, vous connaissez. Mm-hmm. Donc c'est un tournage qui s'est déroulé dans la tourmente, évidemment, puisqu'il fallait faire attention à ne pas attraper la Covid. Hein, ça a démarré entre les deux confinements, entre le premier et le deuxième confinement, puisqu'on ne sait plus combien on en est, le troisième.
Ça,
là.
Ouais.
Et donc, et ça a été rythmé par les mesures sanitaires à respecter, voilà. Donc, on retrouve hein, les chefs Philippe Etchebest et Hélène Darroze, Michel Saran et Paul Perret. Donc ça, tout jusque-là, ils sont tous là, tout va bien, ils sont en bonne santé. Alors, ils ont voulu éviter quand même le cluster entre les candidats.
Voilà.
Ouais, c'est pas mal.
Ça aurait été dommage.
Donc, méthode radicale, ils ont été confinés en permanence. Tous les participants ont été logés ensemble, sur place, pendant toute la durée des épreuves.
D'accord.
Donc, côté positif, c'est qu'ils ont créé une ambiance différente, plus sympathique, plus fraternelle entre eux. Tu vois, c'est moins dans la compète.
Ouais, tout à fait.
Donc le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.
Ouais.
Et donc dans ce contexte chamboulé, l'activité au point mort des restaurants aura au moins offert à l'émission des invités de haute volée. Eh oui, parce que cette année, on a des cuisiniers qui sont habituellement surbookés, mais cette année, ils se retrouvent face à un agenda aussi vide qu'une assiette en fin de dîner. Et oui, donc on a des pointures de la gastronomie hexagonale qui viennent participer à l'émission, mais l'émission comme Michel et Sébastien Brasse. Pascal Barbeau, Guy Savoie, Pierre Gagnère, Glenn Vielle ou Alexandre Mazia, mais aussi des figures internationales comme l'anglais Eston Blumenthal qui a pu prendre le temps de faire l'aller-retour en Eurostar, ou encore Angel León. Si, et Adouni Adouris, ténor de la haute cuisine espagnole.
Waouh.
Donc du côté des chefs jurés aussi, le business momentanément à l'arrêt, hein, s'est traduit par un plus grand engagement dans l'émission. Voilà, puisque là, ils n'ont pas besoin de jongler avec la gestion de leurs différents restaurants, ce qui était le cas dans les saisons précédentes. Donc, ils se donnent à 100%, hein, voilà, disponibilité maximale pour les quatre chefs habituellement au fourneau. Alors, cette 12e saison, elle est placée sous le signe de la créativité. Créativité côté cuisine, la production donc, a dû faire preuve aussi en coulisses de créativité pour adapter la recette Top Chef aux circonstances du moment. Donc ils sont en mode click and collect parce que par exemple il y a l'épreuve de la guerre des restos. Alors c'est pas encore diffusé, mais tu sais, c'est une épreuve où les participants doivent créer de toutes pièces un établissement de leur rêve.
Et oui.
Donc là il a fallu imaginer des plats facilement transportables, dégustés par des jurés attablés chez eux. Voilà. Et quant à la finale, habituellement c'est un grand banquet qui rassemble une centaine de convives. Là ce sera pas possible évidemment à cause de la Covid. Donc ils vont adapter la disposition des tables, etc. Donc optimiste, hein, cette saison de Top Chef, créative, voilà. Si vous voulez vous détendre, passer un bon moment, apprendre à faire la cuisine, Top Chef, c'est tous les mercredis à 21h sur M6, voilà. J'espère que ça vous a donné envie. Bon, c'est vrai que pendant le premier confinement, on a beaucoup fait la cuisine. Là, je pense qu'on va se laisser un peu aller et on va en faire beaucoup moins. Mais peut-être que je m'avance un peu trop vite. Pablo, un petit peu de musique. Non, un petit... Petit voyage cérébral.
Et nous continuons notre voyage.
Ah, ça fait longtemps.
Cérébral.
C'est bon, ça c'est stupé, Flip.
Excellent.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Alors, Pablo, tu veux nous parler d'un livre.
Oui, je vais vous parler d'une lecture que je viens de faire là pour terminer en fait une saga de 3 livres. C'est donc la saga de Pierre Lemaître qui avait commencé avec Au revoir là-haut, qui a été porté à l'écran ensuite par Dupontel et bon, qui a eu un franc succès. Et c'est vrai que d'ailleurs Pierre Lemaitre avait eu le prix Goncourt pour ce roman. Je rappelle qu'à la base Pierre Lemaitre est un écrivain plutôt de polar, série noire, et qui tout d'un coup passe en, je dirais, en roman plus dramatique, classique, en plus là historique, puisque pardon, je perds mon fil, mais
c'est pas grave, dis-nous tout.
Oui,
Pierre Lemaitre.
Pierre Lemaitre, donc, et donc ce premier roman, Au revoir là-haut, se passait juste au sortir de la Grande Guerre. On commence en 1919, donc avec où on suit une gueule cassée et son compagnon qui vont monter une petite arnaque pour essayer de se refaire et de trouver un moyen de survivre et de s'en sortir.
Arnaque au monument aux morts.
Une arnaque au monument aux morts, qui est assez savoureuse. Alors ensuite, après, il a proposé un deuxième livre qui s'appelle Couleur de l'incendie, que je vous recommande vivement. On part sur d'autres personnages, on est plutôt dans les années 20, dans les années 20 et dans les années 30. Donc de cette décennie de l'entre-deux-guerres qui voit la montée des fascismes, qui voit l'installation des régimes totalitaires et avec une tourmente très machiavélique sur une femme principalement et son fils, Madeleine et son fils. C'est pareil, très très intéressant, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Et alors là, je voulais vous parler du dernier qui s'appelle Miroir de nos peines, qui se passe donc... qui commence en 1939 exactement et qui va voir le début de cette drôle de guerre en France sur la ligne Maginot, et puis très vite la débâcle, et on va suivre la dans cette tourmente quatre personnages exactement: un capitaine de gendarmerie, une jeune institutrice et serveuse, Louise, de Paris, et puis deux soldats, Gabriel et son comparse Raoul, qui est un peu hableur, comment dire,
une grande gueule
le gars qui est débrouillard et qui est toujours limite, je dirais presque borderline, mais qui au fond devient fort sympathique et presque attachant, et même franchement attachant. En fait, voilà, on va les suivre, et évidemment Pierre Lemaitre et alors dans son écriture, il a une qualité extraordinaire, c'est que en une page, il vous dépeint un portrait. Il a une façon très précise et très très vive de mettre des couleurs sur une situation. Il vous peint vraiment des tableaux à travers son écriture, et en même temps une façon de tisser des fils qu'il reprend à certains endroits, qu'il renoue, qu'il croise avec d'autres. Donc on est constamment en train de se rappeler aussi ce qu'on a lu précédemment dans les deux autres romans précédents, et puis de continuer l'intrigue. C'est très très bien fait, vraiment un très beau roman. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ces trois romans qui sont alors édités à l'origine chez Albin Michel. Donc je répète, Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines, qui sont actuellement donc aussi édités en livre de poche. Voilà.
Merci Pablo. Et alors tout de suite, on va écouter un morceau de musique, parce que ta chronique m'a fait penser à une chanson.
Yes.
Mais alors, je ne sais pas si ça va te plaire, mais... Tu as dit c'est un beau roman, alors forcément.
Eh oui,
je pense à ça.
C'est une belle histoire.
Voilà. Bon, on va peut-être pas écouter ça finalement, c'est pas une bonne idée. Non, par contre, on pourrait écouter un titre des années 90 de Folk Implosion. Je ne sais pas si tu connais ce groupe, Pablo.
Ah non.
C'était vachement sympa.
Petite trouvaille. Hein.
C'était le titre Insinuation dans Bang Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Voilà, donc c'était les années 90, hein, Pablo, c'était Folk Implosion,
ouais.
Insinuation. Je sens que cette compile te plaît.
Ouais, elle est très sympa. Et c'est vrai que du coup, en fait, on est passé des années 80, 78 même, 90, on a exploré pas mal là. Hein.
Moi, ce que je te propose, vu qu'il reste encore 4 minutes, 3 minutes, c'est d'écouter un autre titre.
Et oui.
On va écouter Number One Cup. Alors c'est pareil, c'est pas connu non plus.
D'accord.
Tout de suite dans Bande Geek Mafia, c'est parti. Toi qui aimes le grunge, c'est parfait. Eh bien, l'émission est déjà terminée, Pablo.
Eh oui.
C'était
un plaisir. Hein.
C'est vrai, tu crois ?
Ouais.
Bah, pour moi aussi. Allez, on écoute un petit générique de fin, peut-être, quand même, avant de se quitter. Bon, alors, évidemment, c'est laborieux. C'est laborieux, mais on est tellement content d'être dans le studio.
Exactement. Bon, on vous dit dans 15 jours, donc. Hein,
oui, c'était Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les 15 jours.
Voilà.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
www.radio-g.fr.